Découverte, rencontre, création. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.
L'Union européenne est désormais seule face aux menaces et à ses responsabilités. C'est la fin d'une illusion transatlantique et celle d'un ordre mondialisé et régulé. François Boursier, historien, conférencier du Fait du Moi, à l'initiative de l'association Les Amis de l'éducation populaire à Villefranche-sur-Saône, animait la séance de la conférence du jeudi 15 janvier dernier sur le sujet. Discussion avec François Boursier.
Oui, voilà, on en est maintenant dans une situation où l'Europe va devoir prendre acte définitivement qu'elle est seule. Et qu'elle est seule face à trois ensembles j'ai presque envie de dire, je vais être trivial, lui veulent du mal. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine ou que ce soit les États-Unis, chacun à leur manière, ils ont ciblé l'Europe et l'Union européenne comme ennemi principal d'une certaine manière. Alors face aux menaces que font peser les États-Unis, la Chine et la Russie sur l'Union européenne, il y a un vrai enjeu de renforcer l'ensemble des capacités de l'Union européenne. Il faut qu'on prenne conscience que chaque nation qui compose l'Union a besoin d'avoir l'Union pour la protéger, à charge pour les pays membres de faire en sorte que cette Union soit vraiment une Union protectrice. Il y a un vrai enjeu de protection, et protection géopolitique, stratégique, protection économique, et je dirais même protection culturelle et idéologique, parce que derrière les attaques contre l'Union européenne, c'est des attaques contre la démocratie, contre l'état de droit qui est en jeu.
Quelle option stratégique lui reste-t-il ?
Oui, c'est le vaste problème de l'Union européenne, c'est comment articuler les intérêts nationaux des nations qui composent l'Union et l'intérêt qui nous est commun à tous, qui est l'intérêt de l'Union. Parce que nous sommes français, italiens, allemands, espagnols, etc. Mais en même temps, nous sommes tous et toutes européennes et européens. C'est vrai qu'il y a un défi à deux niveaux. Il y a le défi de faire en sorte que l'Union européenne, dans son fonctionnement, soit plus démocratique, plus efficace. Alors démocratique, elle l'est, hein, je pense. Parce que si à l'initiative de l'Allemagne, le Parlement européen n'a pas pu jusqu'à présent donner son point de vue sur le traité du Mercosur, c'est parce que les Allemands qui sont favorables à ce traité savent très bien qu'il y aura une majorité au Parlement européen contre le traité du Mercosur. Parce que nous avons un fonctionnement démocratique. Ce qui nous manque, c'est que d'abord les États qui la composent, les nations qui la composent, qui ont des intérêts, comprennent qu'il y a des intérêts communs quelquefois supérieurs aux intérêts nationaux. Puis il y a tout l'enjeu, et là l'Europe est très en retard, tout l'enjeu de la naissance d'un peuple européen. En fait, quand je dis peuple européen, faire naître en nous un engagement européen, un degré d'européanité qui est réel, parce qu'il y a des différences, mais en même temps, on a un corpus global culturel qui est le même.
L'instabilité, en quelque sorte, serait possible par la pression des autres États, si on n'y prend pas garde, en fait.
Ah oui. Bon, il me semble quand même que ce que nous constatons, c'est que chaque fois qu'il y a des crises, on l'a vu avec l'épidémie de Covid-19, on l'a vu à l'époque de la crise monétaire, au moment de la crise grecque, on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, à partir de 2022. Chaque fois que les nations qui composent l'Union sont confrontées à une crise, moi j'observe qu'ils ont tous le réflexe européen. Ça, c'est très positif. Ils ont le réflexe européen. Après, les intérêts français ne vont pas dans le sens du Mercosur tel qu'il a été signé, tel qu'il a été élaboré, alors que les Allemands, eux, y ont intérêt. Et c'est tout le débat qu'il faut être capable d'avoir et que, à mon avis, la Commission européenne n'a pas joué son rôle, qui consiste à faire en sorte que les intérêts divergents qui s'expriment travaillent à se rapprocher progressivement.
Alors, je cite, « L'Union européenne ne peut être le dernier herbivore dans un monde de carnivores », pour paraphraser le président de la République française Emmanuel Macron.
Oui, jusqu'à présent, on a été des herbivores et nous sommes entourés de fait de carnivores, c'est-à-dire encore une fois de pays qui nous agressent. Les États-Unis agressent l'Union européenne. La dernière intervention américaine au Venezuela montre bien que les Américains remettent en place et en route la célèbre doctrine Monroe, à savoir tout ce qui est en Amérique est aux Américains, c'est-à-dire aux États-Unis. Et donc, vous n'avez pas à y mettre votre nez. Mais mon point de vue personnel est qu'ils sont en train d'étendre cette doctrine Monroe à l'Union européenne. européenne et à l'Europe. Ils veulent, quand on lit le document de décembre 2025 sur la nouvelle doctrine stratégique américaine, ils disent « nous avons besoin de l'Europe ». Mais en fait, ils veulent une Europe vassalisée. Ils veulent une Europe soumise à leurs intérêts et à leurs attentes.
Les intérêts stratégiques européens sont bien là, visibles de tous, mais leur impact sur les affaires du monde reste singulièrement limité par rapport au poids théorique de l'Europe dans le concert international.
Je lisais le dernier bilan du journal Le Monde pour l'année 2025. 2025, 80 ans après la création de l'ONU, où le droit international était quand même la cheville ouvrière, la colonne vertébrale du système de gestion de l'ensemble des problèmes, des réalités, y compris des crises, ça n'empêchait pas les intérêts militaire, mais on en revenait toujours à l'ONU et au cadre général du respect du droit international, sous le coup de la Chine, de la Russie et des États-Unis, c'est en train de voler en éclats. Et nous sommes, nous, les pays d'Europe, la seule région du monde où on croit encore à l'état de droit. À l'état de droit, à la séparation des pouvoirs, aux élections, à une presse libre, etc., etc. Même si on constate par ailleurs que dans nos pays à nous, il y a des gens qui rêvent de modèles à l'américaine ou à la russe.
Le Rassemblement national, pour le nommer.
Oui, le Rassemblement national, d'ailleurs on l'a vu là, dans les derniers votes où il s'est agi de renforcer la capacité européenne de défense, donc des programmes de financement, ben, on a quand même vu que Manon Aubry de LFI et Bardella du RN ont voté contre, alors que tous les autres partis politiques français présents au niveau européen ont voté pour le renforcement de la défense de l'Europe.
Un sursaut européen semblerait-il urgent ?
Oui, alors pour l'instant, si on reprend toutes les discussions au niveau des Européens, si on met de côté la Hongrie, tous les autres pays ont marqué leur accord pour apporter un soutien quasiment inconditionnel à l'Ukraine. Et les Ukrainiens le savent, ils savent qu'ils ont les pays européens et l'Union européenne derrière eux pour les soutenir. On l'a bien vu quand Donald Trump a proposé ce fameux plan en 28 points, dont on a appris qu'en fait ce plan il avait été concocté par les Russes, on a dit non, on va vous faire des propositions. Et l'Ukraine, avec l'Union européenne, a fait des propositions. Et la semaine dernière à Paris, la coalition des volontaires, rejointe par les représentants des États-Unis d'Amérique, ont donné leur accord au plan européen. Ça montre notre capacité. Simplement, on n'a ni la force économique, ni la force militaire pour afficher et contraindre les autres régions du monde à prendre en compte ce que nous disons et à en tenir compte et à respecter nos enjeux. Et sur le plan économique, on sait que autant la Russie nous agresse militairement, autant les États-Unis nous agressent politiquement et culturellement et idéologiquement, la Chine, elle nous agresse commercialement. Et là, il va falloir que l'Union européenne prenne conscience qu'on doit se protéger. Mais quand Emmanuel Macron va à Pékin, là, il y a 3 semaines, j'ai rien contre Emmanuel Macron, mais ça sert à rien. Il n'a pas été écouté, il n'a pas été entendu. Mais si c'était l'Union européenne qui allait voir Xi Jinping pour lui dire « ça c'est possible, ça c'est pas possible », il serait obligé d'en tenir compte et de s'exécuter. C'est tout le problème de cette capacité à s'affirmer en tant qu'Européen, parce que le concert des nations aujourd'hui, il est marqué par l'émergence des 3 prédateurs que sont la Chine, la Russie et les États-Unis.
C'est le retour à la réalité tragique de l'histoire. On tremble sur l'échelle géopolitique aujourd'hui.
Et on a raison de trembler, parce que de fait, ce que vise Donald Trump, c'est de faire comme certains de ses prédécesseurs, que ce soit le premier Roosevelt ou Jackson, ils ont étendu le territoire américain. Ils ont affirmé la puissance américaine par l'extension territoriale des États-Unis d'Amérique. Et ils ont pris une partie du Mexique, l'Alaska, la Louisiane, et il entend continuer. Et donc, d'une certaine manière, il ne va pas coloniser le Venezuela, mais il est en train de tenter de mettre en place une sorte d'état fantoche au service des intérêts américains. Ils sont en train de viser la même chose pour Cuba et je pense qu'ils vont arriver à déstabiliser définitivement Cuba et le prendre en main. Et ils ont le Groenland dans le collimateur. À l'initiative du Danemark, il y a des troupes européennes qui sont en train de débarquer en ce moment au Groenland pour le protéger. Mais ça va être une partie de bras de fer extrêmement sérieuse.
L'Union européenne doit assumer sa responsabilité, non seulement vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi dans l'architecture de sécurité du sous-continent européen.
Tout à fait, c'est l'ONU en 1945 qui avait figé définitivement les frontières. Bon, il y a eu après l'année des indépendances en Afrique qui ont permis de mettre en place les frontières qui pouvaient être discutées, mais qui ont été finalement acceptées, mais qui aujourd'hui sont remises en cause ici ou là, parce que de fait, ce qui caractérise ces 3 prédateurs, c'est qu'ils remettent en cause ce droit international qui avait dit il y a des, il y a des frontières, et à l'intérieur des frontières, il y a des souverainetés, et le droit international protège ces souverainetés. Donald Trump, Poutine et Xi Jinping n'ont que faire du droit international.
Plusieurs signes témoignent toutefois que le cours de l'histoire n'est pas irréversible. C'est le retour à la réalité des choix qui vont orienter l'Europe sur 20 ou 30 ans. Serons-nous individuellement et collectivement à la hauteur ?
Ça va être le défi, c'est est-ce qu'on aura la capacité d'être à la hauteur, comme vous dites ? C'est vraiment le terme qu'il faut prendre. Nous devons être à la hauteur, il nous faut du temps. Je pense qu'on est dans une prise de conscience qui se fait au niveau des peuples européens. Aujourd'hui, la grande majorité des Européens, 60 à 65%, considèrent effectivement que non seulement la Russie est une menace, mais que la Russie nous fait la guerre. Et on est en train de faire la même prise de conscience vis-à-vis des États-Unis, qu'on avait toujours considéré comme un allié indéfectible. Aujourd'hui, même les plus pro-américains, qui étaient les Polonais et les Allemands, ont compris que leur intérêt était maintenant du côté de l'Union et pas du tout du côté des États-Unis.
Alors, les réactions économiques aussi envers la Chine ont...
C'est vrai que ça va être un vrai défi parce que là, les Chinois sont en train de détruire l'industrie européenne. Il n'y aura plus d'industrie automobile française dans 5-6 ans, soit parce que les usines auront fermé, mais je pense plutôt que les Chinois auront pris le contrôle de ces entreprises et en piloteront les orientations et les grands choix. On a des enjeux considérables. Moi, j'en reviens au fameux rapport Draghi de septembre 2024 qui disait qu'il faut que l'Union européenne investisse 800 milliards d'euros par an pendant 5 à 10 ans pour booster l'économie européenne, notamment dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Alors on ne dépend plus du gaz russe, mais maintenant on dépend du gaz liquéfié américain. Les Américains nous ont contraints à nous engager à acheter pour 750 milliards de gaz liquéfié sur 3 ans. Il faut qu'on soit capable de dire non en développant ce qu'on appelle les renouvelables, le solaire comme l'éolien, et puis le nucléaire, on n'a pas le choix, pour assurer une totale indépendance. Et puis il va falloir redéfinir stratégiquement les filières industrielles dont on a fondamentalement besoin à l'intérieur de l'Union européenne.
Les laboratoires.
Tout à fait, que ce soit au niveau, globalement au niveau de la santé, de toutes les industries de pointe aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le numérique, tous ces domaines-là que le rapport Draghi a bien identifié et sur lesquels il faudra aller plus vite que l'on ne va. On avance, mais trop lentement.
Lorsque les principes démocratiques tremblent sur leur base, le défaitisme n'est jamais un bon allié. Les défenseurs de la planète ne sont pas aussi démunis qu'on le pense. Pourrez-vous lire dans les pages de la publication de l'édition 2026, hors série du journal Le Monde. Ils peuvent s'appuyer sur l'Union européenne comme levier d'action pour peu que les Européens s'affirment comme une vraie force stratégique dans le monde. Dans ce clair-obscur qui fabrique souvent des monstres, existe aussi des raisons d'espérer, confie Gatsby Nation dans un article du journal Le Monde.
Découverte, rencontre, création, partageons-les sur Calade. Ma radio.